Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Moderne. Dans cet épisode, j'accueille Céline Tran. Céline a été autrefois connue sous un pseudonyme. Ce pseudonyme, c'était Katsuni. C'était une des actrices porno les plus connues au monde, et ce pendant 13 années de carrière. Et puis un jour, elle a décidé d'arrêter et de passer à autre chose. Donc dans cet épisode, on va parler de ce qu'elle a fait après, et ses liens ou non par rapport à son ancienne carrière. On va parler de sa carrière dans le porno, de ce qui a fait son succès à l'époque et de ce qui a changé dans le milieu du porno entre le moment où elle a commencé et le moment où elle a arrêté et maintenant. Et finalement, on va parler de sa stratégie de création de contenu, comment elle a fait pour faire ce travail un peu d'équilibriste entre le fait d'utiliser quand même son ancienne vie parce que c'est ça qui va aussi l'aider à se faire connaître dans sa nouvelle vie et le fait de ne pas se faire limiter par l'idée qu'on a été un jour une actrice porno. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Céline Tran. C'est bon, maintenant tout est parti. Eh bien écoute, on est
Que tu es à l'étranger, c'est ça?
Ouais, je suis à Chiang Mai du coup. Donc, j'ai vu que tu avais l'occasion de passer.
Oh là là, ouais. Quelle chance. Bon, enfin moi, le seul truc qui me dérangeait, c'est pas un détail, c'était quand même la pollution. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime cette ville. C'est là où je suis formée en massage thaï, effectivement. Ouais. Et j'ai trop hâte d'y retourner. J'ai mes habitudes
là-bas.
Donc,
t'étais là à quelle période? Parce que la période des fumées, c'est violent.
Ouais. Quand je viens, c'est novembre ou printemps. Enfin, c'est surtout novembre. Okay. C'est souvent novembre, ouais.
Novembre-décembre. Okay. Novembre, ça va encore. Ouais, cette année, nous, on a dû partir pendant quasiment 2 mois. En fait, on va dans le sud pendant cette période. Parce qu'en plus, on a une petite maintenant. Donc, tu vois, pour les enfants et tout, c'est compliqué. À la limite, tu peux rester chez toi. En fait, ce que font les gens, c'est qu'ils barricadent leur maison. Ils ont 4 purificateurs d'air dans toutes les pièces,
ah ouais,
etc.
Carrément.
Et t'arrives à tenir. Mais en fait, si t'as des enfants et que tu veux qu'ils puissent sortir un minimum, du coup, on a dû évacuer pendant bien, je crois, 8 semaines, là, cette année. Et il y a même des écoles qui font... Il y a une école qui fait un camp pendant 2 mois. Ils vont dans le sud et ils déménagent toute l'école. Bon, évidemment,
c'est génial.
C'est pas mal.
C'est moi qui... Enfin, je me posais des questions. J'ai un problème ou quoi? Mais ouais, effectivement, c'est...
Il y a un vrai problème pendant la période, surtout aux alentours de mars, grosso modo. Tu vois, mars, avril, c'est la période...
C'est à cause de leurs techniques agricoles, c'est ça? Où ils brûlent...
Du coup, c'est assez flou parce que moi, ce que j'avais compris, c'était effectivement que c'était les paysans qui brûlaient leurs champs pour essentiellement pour éliminer tout ce qu'il y avait et puis pour pouvoir repartir. Et en fait, d'autres personnes disent que c'est pas ça et qu'en fait, c'est des feux de forêt. Et a priori, c'est des incendies de forêt parce que apparemment, s'ils font un incendie de forêt, ça brûle et après, il y a des champignons qui poussent. Et récupère ces champignons. Et apparemment, il y a un marché en Chine pour ces champignons. Et donc, c'est une espèce de contrebande bizarre qui se fait. Et évidemment, dans ce cas-là, on est affecté beaucoup par ce qui se passe en fait dans les pays adjacents. Parce que là, on est quasiment à la frontière. Donc, en fait, la Thaïlande n'a pas le contrôle sur tout. Donc, la réponse, c'est que je ne sais pas exactement d'où ça vient. Et il y a différentes théories qui flottent. Mais grosso modo, ça reste quand même un vrai problème. Et après, il y a le problème de simplement, c'est une cuvette quoi, à cause de la montagne et tout. Et ça reste coincé.
Moi aussi. Voilà. C'est le Grenoble thaïlandais.
Ouais.
Enfin, je préfère Chiang Mai pour le coup.
Et du coup, du coup, c'est drôle que tu sois passé par là. Écoute, moi, ça m'amène sur de toute manière ton service. C'est-à-dire qu'une chose que je remarque en allant sur ton site, c'est que finalement, tu as plein de services différents. Tu vas proposer à la fois de l'hypnose, du coaching, le côté massage. J'ai l'impression qu'il y a une période où tu as pas mal expérimenté avec différentes choses, où tu t'es relancé dans les arts martiaux, dans le cirque, etc. Aujourd'hui, parmi ces différents services, c'est quoi essentiellement le cœur de ton activité ou ce qui te semble, toi, le plus important?
Le cœur de mon activité, c'est l'accompagnement. Et cet accompagnement se fait avec différentes techniques. Et pour moi, faire du massage bien-être, c'est proposer une forme d'accompagnement. Puisqu'il y a un temps de discussion et parce que l'intention derrière le massage, c'est d'amener la personne à se reconnecter à son corps. Et bien souvent, elle amène avec elle des problématiques parfois d'abus, de complexes. Enfin voilà, c'est de l'accompagnement. J'utilise aussi l'hypnose. Il y a le terme coaching aussi, mais le coaching, c'est vraiment une manière d'accompagner qui est spécifique. Donc pour moi, le vrai mot, c'est accompagnement. Accompagnement lié au développement personnel. C'est lié au bien-être, au développement personnel.
Et le type de problème que les gens vont avoir qui vont les pousser à venir vers toi, c'est quoi typiquement?
Beaucoup de problématiques autour de la sexualité, puisque c'est ma spécialité, mais pas que. Il y a aussi des problématiques autour de reconversion de vie, de changement de vie. certaines personnes qui sentent qu'elles sont arrivées au bout de quelque chose, mais elles ne trouvent pas forcément le courage de faire leur choix. Donc, il y a une démarche d'introspection. Finalement, je me retrouve à faire du coaching de vie alors que je ne me suis jamais présentée de cette manière. Mais comme beaucoup connaissent mon parcours, ça va toucher en eux, enfin, ça va résonner chez eux en fait. Mais principalement la sexualité avec, bah oui, malheureusement, beaucoup de personnes qui ont été abusées et pas que des femmes. Il y a beaucoup de violence, il y a des problématiques plus globales. Vraiment, généralement, des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi et l'envie de lâcher prise et de lâcher un peu le contrôle. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui réunit tout le monde. Et forcément, ça passe beaucoup par le corps.
Et du coup, comment est-ce que ça se concrétise? Par exemple, si tu dis c'est une séance de massage, comment est-ce que tu inclus le côté plus accompagnement, la discussion? C'est tu fais une séance avant pour comprendre les objectifs de la personne? Comment est-ce que tu inclus en fait cette partie-là?
Alors déjà, pour tout rendez-vous, la personne me contacte par écrit en remplissant un formulaire où déjà je pose des premières questions. Moi, ça me permet de faire le tri, de voir si je suis apte à, enfin, si mes services correspondent aux besoins de la personne, parce que parfois il y a une confusion entre coach, psychologue, psychiatre. Enfin, ce sont des métiers différents et complémentaires. De la même manière, je ne suis pas ostéo, je ne suis pas kiné. Je le précise, ce que je fais n'est pas à dimension médicale. Donc déjà, ça me permet de clarifier les choses, d'avoir une première écoute vis-à-vis de la personne. C'est déjà une occasion de faire connaissance. Quand je lui réponds, bien souvent, je rajoute des questions pour amener cette personne déjà à faire son petit bout de chemin d'ici le prochain rendez-vous. Et pour ce qui est de la séance massage en elle-même, c'est une séance qui dure 1h45 et qui inclut un temps de parole. Et ce temps de parole dure le temps que la personne souhaite qu'il dure, en fait. Certaines personnes vont estimer que 5 minutes, ça suffit parce qu'elles veulent vraiment profiter à fond du massage. Et d'autres vont parler peut-être même une heure parce que c'est parce qu'elles en éprouvent le besoin. Et c'est un temps de parole très ouvert, c'est-à-dire que bien sûr, je vais les questionner sur leur rapport au corps, leur hygiène de vie, leur sommeil, leur tension, leur niveau de stress. On va parler aussi de leur pratique sportive. Je vais leur prodiguer quelques conseils en fonction, bien sûr, de mon niveau de connaissance. Et si besoin, je vais les orienter, je vais les encourager aussi à aller voir un ostéo, quelqu'un qui sera souvent plus adapté à leur éventuelle problématique, s'il y a un aspect médical. Et ensuite, il y a le massage en lui-même qui va être adapté. Alors, je fais ce qu'on appelle un massage signature, c'est-à-dire que je fais mon propre cocktail de techniques, puisque je me suis formée à plein de styles de massage différents, dont certains justement à Chiang Mai en Thaïlande. Et après, on va dire que c'est pas tant les techniques, mais beaucoup plus mon attention, mon énergie qui va s'adapter à la personne. Je vais pas masser de la même manière quelqu'un qui, par exemple, est beaucoup dans le mental et me dit, voilà, moi je suis à bout, j'ai besoin de lâcher parce que je cogite tout le temps. Je vais pas masser de la même manière cette personne et une autre qui va me dire, voilà, moi je suis un sportif, j'ai des tensions très fortes à ce niveau-là, il y a un côté localisé. Voilà, c'est pas la technique peut être la même, mais en fonction de la demande, je vais pas l'utiliser de la même manière.
Donc tu mets pas une énorme différence finalement entre le côté massage et le côté conseil et le côté même hypnose, ça pourrait être plus ou moins le même type de client qui vient te voir.
Mais complètement, complètement. Moi, les personnes qui viennent me voir pour un type de séance, souvent prennent un autre type de séance. C'est-à-dire qu'on va alterner conseil, hypnose et massage. Et d'ailleurs, je propose aussi des formules d'accompagnement où je jongle avec tous ces types de services pour accompagner la personne à plusieurs niveaux. Puisqu'avec l'hypnose, on est sur le niveau émotionnel. Le corps, on est, le massage, on est dans le corps, mais il y a aussi une partie émotionnelle, mine de rien. On est dans quelque chose qui est quand même intime, qui touche à son rapport à soi, à sa pudeur, à ses résistances aussi. Et puis, il y a la partie conseil qui va être beaucoup plus... là, pour le coup, ça ressemble vraiment à une discussion très naturelle. où j'utilise mon expérience personnelle, où là, je vais être beaucoup plus dans du conseil et dans ce qu'on appelle de la prescription de tâches, où je vais amener la personne à changer certaines choses dans sa vie, quoi.
J'ai pas trop de recul sur ce milieu, mais c'est assez unique de faire autant de pratiques différentes. Il y a beaucoup de gens qui font à la fois du massage et de l'hypnose, ou toi, c'est vraiment un mix que tu as et qui est unique. C'est quoi ton avis là-dessus?
Ça se développe un petit peu, le mélange hypnose et massage. Il n'y en a pas beaucoup encore. Et il n'y a pas on va dire, de méthode officielle pour l'instant. Moi, l'hypnose, de toute manière, j'utilise tout le temps, finalement, parce que c'est aussi une manière d'utiliser les mots, une manière d'être à l'écoute, une manière d'amener la personne à adopter un autre point de vue. Faire de l'hypnose, c'est pas forcément faire une séance, traditionnelle où on va mettre la personne en transe. Ça peut être aussi une manière de discuter pour l'amener à avoir des prises de conscience, des déclics. Et ça peut se faire durant le temps de discussion avant le massage. Et puis, il est possible aussi à travers la parole d'amener la personne déjà à porter son attention sur peut-être une partie de son corps qui a besoin justement d'être prise en compte. Quelqu'un, par exemple, qui a été abusé, c'est assez fréquent qu'elle fasse un rejet d'une partie de son corps. Et alors bien sûr, hein, moi je précise, dans mes massages, on ne touche pas les parties intimes, ça c'est important de le préciser. Mais par contre, ça va être important d'amener la personne à prendre conscience de son corps et à l'aimer et à être attentive à son ressenti, aux différences de sensations. Donc en fait, il y a effectivement une sorte de danse, de jeu qui se met en place entre le langage hypnotique et les techniques de massage. Arrivé le temps du massage, j'arrête de parler, mais il se peut que, quand j'estime que c'est nécessaire, que j'amène la personne à... Enfin, que je la guide par la parole. Ça dépend de ses besoins.
Tu as mentionné l'idée que l'hypnose, ce n'est pas nécessairement une transe. Concrètement, dans une conversation, comment est-ce que tu utilises ces outils-là? À quoi ça ressemble, quand tu utilises l'hypnose?
Ben, en fait, c'est une transe qui n'est, comment dire, l'hypnose est forcément connectée à la transe, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut l'utiliser pas forcément de manière formelle.
Disons que ce n'est pas forcément
C'est-à-dire
ce qu'on
que...
a l'habitude de voir dans les films où on te dit tes
Non,
paupières
pour
sont
assister à ce qu'on
lourdes
regarde.
et il y a le professeur Tournesol
On peut le dire.
qui fait le comment ça s'appelle le pendule. C'est pas.
Ouais. À vrai dire, on a plus tendance à dire que les mains sont légères. C'est beaucoup plus
Ok.
fun. Mais c'est vrai que dans les films, l'hypnose est utilisée pour son côté mystérieux, le côté un peu manipulateur et plutôt, ça fait,
Et puis il y a le côté spectaculaire du grand cabaret de Patrick Sébastien où tout le monde est sur scène et tu te retrouves à aboyer comme un chien. Et donc là, c'est une situation un peu différente.
C'est ça complètement. Il y a une confusion en fait. C'est-à-dire qu'il y a des points communs dans la technique, bien sûr, mais c'est pas du tout la même intention. L'hypnose ericksonienne, celle que j'utilise, c'est une hypnose qui est une hypnose justement d'accompagnement pour accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. Et donc tout dépend d'elle. C'est pour ça qu'il y a un temps de discussion qui est indispensable, où je questionne la personne sur sa problématique pour aller chercher derrière la problématique, parce qu'il y a l'histoire qu'on se raconte. Et moi, je l'amène en fait à aborder plusieurs angles, à creuser derrière pour aller à la rencontre de l'émotion qui bloque, qui peut être une peur, qui peut être de la colère. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Et à partir de là, finalement, le chemin est tracé. Mais ce chemin, il n'est tracé qu'avec les informations qui sont données par la personne. Donc, jamais il s'agit de l'influencer. Je peux proposer des choses, mais toujours, la personne a le choix de garder ou de reformuler, puisque c'est un échange qui se fait. La personne sous hypnose continue de s'exprimer à voix haute et elle continue de répondre à mes questions et elle est toujours libre, en fait. Donc, moi, je suis juste là pour l'accompagner sur le chemin qui sera le plus sain pour elle, pour atteindre son objectif. Et c'est magnifique parce que chaque séance est différente.
Et dans ce cas-là, l'hypnose, ça se transmet par quoi? Dans une conversation, principalement par les questions que tu poses ou par des intonations? C'est quoi le principal levier d'action en fait? Quelle est la différence entre simplement bah, je suis un coach et j'essaye de te poser des questions. Ouais. Et en fait, l'hypnose, quelle est sa valeur ajoutée à ce niveau-là?
Dans le coaching, on apporte vraiment de soi. Le je est très fort. Et c'est ce qu'attendent d'ailleurs les personnes de la part d'un coach. Ce qu'on appelle la position haute. Ils attendent du coach que ce soit un peu une référence qui leur dise « Allez, vas-y, fais ça, réfléchis pas, fais-le. » Et ça, c'est très libérateur. Et ça m'arrive, bien entendu, de le faire. Dans l'hypnose, on s'efface pour être au service de la personne. Donc, effectivement, c'est beaucoup de questionnements. Et l'idée, c'est de créer un bug, en fait. C'est de rompre le schéma, cette mécanique que la personne a ancrée en elle dans sa manière de se comporter ou de réfléchir et qui fait que, bah, justement, elle n'arrive pas à évoluer. Donc, par les mots, par l'intonation, par l'attitude, par les regards, par tout ce que je peux être vis-à-vis de cette personne, et même à distance, hein, c'est pas forcément présentiel. Moi, mon boulot, c'est de l'amener en fait à justement en donner, à avoir ce bug qui fait qu'elle est plus dans le mental. Le but, c'est de court-circuiter le mental, parce que le mental est un avantage, c'est ce qui nous permet d'analyser les choses, de prendre du recul, de mesurer les choses. Mais c'est aussi bien souvent ce qui nous freine, parce que on va rester sur des échecs, on va se juger, se limiter. Et donc le but dans une conversation où je pars dans le principe que j'utilise l'hypnose, l'idée c'est d'avoir cette réaction à un moment donné de la personne où elle va où son regard va se fixer naturellement et elle va dire ah ouais ok, mais moi je le vois comme ça en fait. Et à partir du moment où la personne elle part dans ses pensées, où le regard se fige, où elle commence à parler en langage symbolique, non mais moi je le vois plutôt comme ça, ou quand je ressens cette peur, j'ai comme une boule dans la gorge. Là, on y est, en fait. C'est déjà un début de transe. Et finalement, ça nous arrive au quotidien. L'idée, c'est de remplacer une transe par une autre, en fait. C'est de modifier la transe qu'on a dans notre problème, où on se persuade d'une chose. Et quand je dis qu'on se persuade, ce n'est pas dire qu'elle n'est pas légitime, mais c'est qu'on reste embourbé dedans. Et l'idée, c'est de bousculer cette transe qui nous bloque pour en apporter une autre qui va nous apporter de nouvelles perspectives. Et ça, c'est magique, parce que quand on invite quelqu'un à ne serait-ce que s'imaginer, se visualiser, mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, juste de lui poser cette question, mais quelle personne es-tu? Quel homme deviens-tu lorsque tu as confiance en toi? Imagine, demain, tu es quelqu'un qui a complètement confiance en toi. Tu es cette personne, on est déjà demain. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça change de ta vie, dans ta vie? Rien que ça, ça crée quelque chose. Ça crée une ouverture. Tiens, mais c'est possible. Et là, hop, on est sorti du schéma où la personne fait de son manque de confiance un problème identitaire. Non, mais moi, je suis comme ça, je n'ai jamais eu confiance en moi de toute manière. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre.
Donc, l'idée, c'est que les gens vont être bloqués dans certains schémas de pensée. Toi, tu te demandes, OK, comment est-ce que je les sors de ce schéma de pensée? Comment est-ce que je leur montre qu'il y a une autre option? Comment est-ce que potentiellement, je les amène dans un nouveau schéma? Et par là, du coup, c'est là où les différents outils peuvent être utiles. Et dans ce cas-là, tu vois assez bien, en fait, comment le massage peut être efficace pour certains types de personnes qui sont potentiellement coincées dans leur tête. Et en fait, par le massage, en tout cas, tu court-circuites un petit peu cet état normal dans lequel ils vont être tous les jours et leur permettre de... Voilà, c'est un peu le cliché que l'hypnose, c'est de la relaxation, mais finalement, il y a un petit peu ce côté où la personne a besoin de lâcher prise sur son schéma actuel pour pouvoir avoir autre chose.
Mmh. Ouais, alors après, je lui montre entre guillemets, c'est-à-dire que je l'amène à trouver elle-même ses solutions. Moi, j'utilise la technique pour qu'elle, trouve ses ressources pour justement vivre son changement. Ce n'est pas moi qui apporte la confiance à la personne, je n'ai pas un super pouvoir. L'idée, c'est qu'elle prenne conscience que justement, elle a tout ce pouvoir en elle. Et là, ça fait des merveilles. Juste par rapport à la relaxation, oui, on peut apporter de la relaxation avec l'hypnose, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas une technique, on peut l'utiliser de cette manière, mais une séance d'hypnose peut être extrêmement physique, extrêmement intense, agité, et forcément, on va aller à la rencontre de choses qui bloquent, et donc parfois, je sais que ça peut effrayer certaines personnes parce qu'elles ont peur de fondre en larmes, elles ont peur de lâcher quelque chose et de le montrer. Donc, ça nécessite un rapport de confiance. Et dans ces cas-là, de toute manière, on y va par étapes. Donc là, il n'est jamais question de forcer quoi que ce soit. Pour certaines personnes, une séance, deux séances, enfin voilà, ça peut aller très vite. Et pour d'autres, il y a un cheminement puisqu'elles s'approprient chacune de leurs étapes et c'est très bien comme ça. En fait, il n'y a pas de rythme imposé.
Ça semblait très bizarre comme question, mais est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis sur toutes les recherches autour des psychédéliques dans la thérapie pour les maladies mentales?
Non. Non, j'ai pas.
Alors, actuellement, il y a une espèce de renaissance où pas mal de chercheurs se mettent à utiliser notamment du LSD et du MDMA pour traiter différents problèmes, notamment le stress post-traumatique chez les vétérans, la dépression, certaines addictions. Et ils ont des résultats vraiment assez frappants. Bah, c'est des études qui commencent juste à être faites, donc ils n'ont pas encore tous les papiers qui sont sortis, mais disons qu'il y a des éléments assez frappants. On se dit, tiens, potentiellement, on avait interdit des trucs qui vont être vachement utiles pour ce type de thérapie. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais c'est quoi le mécanisme qui est derrière? Et a priori, le mécanisme qui est expliqué, c'est que si tu prends, par exemple, une certaine dose de LSD, en fait, bah, évidemment, t'es complètement, ton cerveau est complètement retourné. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que, mettons que tu es dans un stress post-traumatique, ton cerveau est bloqué dans un certain schéma, et en fait, ça va te permettre de sortir de ton schéma pendant une période et potentiellement de pouvoir réorganiser les choses de manière à ce que quand tu reviens à ton état normal, en fait, tu auras réorganisé et il y aura des impacts durables. Et ils arrivent comme ça en trois séances à avoir des impacts sur des gens sur 6 mois. Si normalement, on n'est pas possible, tu ne peux pas prendre un antidépresseur et 6 mois après avoir toujours un effet. En fait, normalement, ça s'estompe. Et en fait, ils disent que ça te permet essentiellement de relâcher ces schémas mentaux et de réorganiser ton cerveau. Il y a des éléments assez intéressants là-dessus. Je pense que c'est relativement connecté par rapport à ce que tu disais sur la possibilité pour les gens de sortir un peu du schéma et de voir une autre perspective. En fait, c'est l'idée de, si tu guides suffisamment bien la personne pendant son expérience, alors évidemment, ils ont un thérapeute qui est là pour aider la personne et pour essayer de les guider, mais du coup, la personne va pouvoir voir un nouveau point de vue en fait sur ses problèmes ou pouvoir réévaluer ses expériences. Et potentiellement, même certaines personnes disent qu'ils se souviennent de souvenirs qui étaient totalement oubliés, tu vois, qui étaient là dans leur cerveau quelque part, mais finalement, ils n'arrivaient pas à les voir ou ils n'arrivaient pas à y accéder. Et ils arrivent potentiellement à recontextualiser une expérience qu'ils ont eue sous un autre angle.
Alors, c'est une autre méthode pour le même résultat, mais est-ce qu'ils ont fait aussi la même chose avec des... comment dire? Est-ce qu'ils ont fait une expérience où ils donnent du LSD et à un certain groupe de personnes où ils n'en donnent pas à d'autres? Parce que c'est ça le plus intéressant, en fait, l'effet placebo. De constater que, de toute manière, ce qui compte, c'est l'information qui est envoyée au cerveau. Alors, bon, moi, je suis en train d'étudier les neurosciences, je ne suis pas encore en mesure là, d'en parler de manière savante, mais pour résumer de manière naïve, mais c'est ça, hein, le LSD ou autre substance va envoyer des messages au cerveau qui va réagir d'une certaine manière et créer cette espèce d'électrochoc, mais ça, on peut le faire sans produit.
Ouais. Et d'ailleurs, le bouquin que je conseille aux gens qui s'intéressent à ça, il y a un bouquin de Michael Pollan qui s'appelle How to Change Your Mind, qui est vraiment bien là-dessus. C'est un journaliste qui a écrit beaucoup et qui du coup a fait une expérience là-dessus. Et un des premiers trucs qu'il fait, c'est les gens lui disent, va pas tout de suite aller prendre des champignons, etc. Enfin, le premier truc qu'il fait, c'est des exercices sur la respiration. Où il va respirer de manière suffisamment intense. Je suppose que ça augmente l'oxygène dans son cerveau au point de faire un effet qui est similaire, en fait. Et il pratique premièrement comme ça, avec des trucs sans prendre aucune substance, mais pour pratiquer l'idée de lâcher un peu le contrôle sur son corps et sur son cerveau, etc. Mais c'est toute une... Par rapport à ton parcours et à ce que j'avais lu sur toi, tout ce que tu avais vu, je pensais que c'est un truc qui peut, toi, t'intéresser. Même si aujourd'hui, en fait, en France, c'est pas du tout faisable, puisque c'est faisable aujourd'hui que dans un cadre de recherche, dans certains laboratoires aux États-Unis. Essentiellement, aujourd'hui, ça n'a pas du tout été légalisé... dans la plupart des cas. Mais c'est un domaine intéressant de recherche qui rentre un peu dans cette continuité de se dire, OK, comment est-ce qu'on amène les gens potentiellement à réévaluer un petit peu leur expérience quand ils sont un peu bloqués, en fait. Comment est-ce qu'on les sort de ce schéma-là?
Bah, c'est exactement ce qu'on fait en hypnose et il n'y a pas besoin de produits et je pense que c'est beaucoup plus simple pour le corps, pour le coup.
Probablement.
Parce que en fait, tous les effets qu'on peut ressentir à travers une drogue, on peut les avoir à travers l'hypnose, hein. On peut retrouver l'état d'ébriété, on peut jouir sous hypnose, puisque tout part du cerveau. Donc, à partir du moment où on envoie les bonnes infos, les effets sont là. Ce que le cerveau croit, le corps le ressent. Donc, c'est une question de message, en gros. Et la substance est juste là pour envoyer un certain code, un certain message. Ouais. Mais il y a les effets secondaires, il y a le risque d'addiction, il peut y avoir un revers à ça. Alors, je ne suis pas anti-médicament, bien entendu. Au bout d'un moment, il faut aussi être pragmatique et on ne peut pas tout faire sous hypnose. Mais en tout cas, dès lors qu'il s'agit de problématiques émotionnelles, je crois vraiment, alors là, je suis une fervente défenseuse de l'hypnose comme étant la technique idéale, mais ça reste qu'une technique. Et donc, après, ce qui va faire la différence et ce qui va rendre la séance efficace, c'est la qualité de la relation entre la personne qui fait la séance et enfin, qui reçoit et puis le praticien. Sa capacité à être dans l'écoute, à utiliser justement, à jongler avec les techniques pour accompagner au mieux, c'est toujours une question de personne quand même. Donc les personnes qui parfois disent non mais moi j'ai essayé l'hypnose, ça fonctionne pas. Dans l'absolu, on est tous hypnotisables puisqu'on vit tous des moments de transe plus ou moins importantes au quotidien. Mais après, effectivement, il faut trouver la bonne personne.
Et j'avais lu aussi que certaines personnes sont plus ou moins susceptibles à l'hypnose. Ça, c'est pas correct dans ton expérience ?
Si, il y a quand même des différences de réceptivité. Hein. Déjà, à la base, quelqu'un qui n'a pas envie de vivre l'expérience, oui, au bout d'un moment, s'il arrive et qu'il est en résistance et qu'il a pas un minimum de curiosité d'envie, déjà, ça serait pas éthique de le forcer. Et ensuite, oui, s'ils résistent, après tout, il y en a qui peuvent être très forts et qui peuvent quand même parvenir à mettre en transe, mais ça n'a pas d'intérêt, de toute manière. Il y a des personnes, oui, qui, c'est drôle parce qu'il y en a qui disent, oui, moi, je ne pense pas du tout être un bon sujet à l'hypnose. Et puis, finalement, il s'avère que 5 minutes plus tard, ils plongent 10 fois plus vite que quelqu'un qui se pensait sensible. Donc, c'est très variable. C'est très variable. Mais pour ceux qui auraient des doutes sur leur capacité à rentrer en hypnose, je vous pose juste la question, y a-t-il une chanson ou un film sur lequel vous n'avez pas ressenti des émotions, ou vous n'avez pas eu l'envie de rire ou de pleurer, ou vous n'avez pas des images qui ressurgissent, qui sont associées à votre vécu? Enfin, tout le monde, il me semble, en tout cas, une grande majorité de personnes écoutent de la musique et des films parce que ça leur permet de réveiller des émotions, de se connecter à quelque chose et qui n'est pas de l'ordre du mental. C'est un état de transe. Quand on regarde un film, on est en transe. On est conscient d'être assis dans un fauteuil, on garde un minimum de vigilance, mais on est absorbé par ce qu'on voit et on vit des émotions à travers des personnages pourtant dont on sait qu'ils sont fictifs et qui ont parfois des vies qui n'ont rien à voir avec les nôtres, qui n'ont aucune valeur en commun, et pourtant on va s'identifier à eux, ou en tout cas on va être connecté à leur histoire et on va ressentir plein de choses. Et parfois un film peut changer une vie d'ailleurs, parce que ça nous propose un axe, ça nous propose un point de vue qui peut nous bouleverser. Et ça, c'est de la transe.
Il y a des films qui ont eu ce niveau d'impact sur toi, pas dans ta vie ?
Oula, oui, il y en a beaucoup. Moi, dans mon bouquin, mon livre témoignage, Ne dis pas que tu aimes ça, je parsème dans mon récit plein de petites références cinématographiques. Et c'est en écrivant mon bouquin que j'ai compris à quel point... pour le coup, je suis quelqu'un qui est très, très, très sensible au cinéma. Ça m'a beaucoup marqué. C'est très cliché, hein, mais un film comme Rocky et la bande-son, ou comme Conan le Barbare, quand je manque de motivation, j'ai juste à écouter ça. Et alors là, ça me rebooste direct parce que ça me reconnecte aussi à un moment de mon enfance. Ça me reconnecte forcément au parcours du héros. Et voilà, c'est inspirant. Donc, pour ma part, ouais, ça m'a beaucoup influencé, le cinéma, et j'en suis ravie.
Tu as mentionné ton livre, c'était quoi ton idée derrière le fait de faire un livre ? C'était quoi la motivation que tu avais en disant, tiens, c'est beaucoup de travail, faut avoir envie de le faire, quoi. Faut avoir
oui,
la raison
mais
de le faire.
C'était exprimer un ressenti, c'est le partage, c'est vraiment le partage, et vraiment être sur le ressenti. L'idée, c'était pas d'être dans le côté purement factuel, parce que le côté factuel, pourquoi pas, mais ça ressemblerait à une grosse page Wikipédia. Non, là, l'intérêt, c'est de proposer justement un autre point de vue, le point de vue humain, et de parler aussi des motivations, des choix, de ce qui se passe à ce moment-là, des doutes, des moments de solitude, des moments de joie, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et c'est vrai que vu l'extérieur, c'est facile de se faire des a priori sur le métier d'actrice porno, parce qu'il y a un côté, mais d'ailleurs volontairement grotesque, racoleur, vulgaire, sexy, enfin bref, c'est très extrême. Mais derrière ça, il y a plein de nuances. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Maintenant, la frustration que j'ai eue, c'est que j'avais que 250 pages. Et forcément, bon, bah, du coup, il a fallu énormément, énormément condenser. Mais bon, on va dire que l'esprit quand même est là et je suis quand même satisfaite du résultat.
T'avais que 250 pages pour des raisons, quoi. L'éditeur pensait que c'était trop long,
Ouais,
sinon c'était un truc
bah, c'est
contractuel.
le contrat qui est
Ok.
comme ça. Ouais. J'en avais écrit
Ok.
650.
Donc tu.
Mais en pensant en
Ouais.
avoir écrit 250, c'est parce que je n'avais pas les bons paramètres. Enfin
Ton board
bref, mais
était
c'était trop de toute manière.
trop petite police.
Oui, c'était trop. Et puis, forcément, quand j'ai écrit aussi pour moi. Il y a clairement un côté thérapeutique à ce moment-là. C'est quand même pas rien de revenir sur toute son histoire et de le faire au présent. Parce que moi, c'était ça qui m'intéressait. Au départ, je l'ai écrit comme un journal intime. Et mon but, c'était de revivre chaque étape de ma vie. Donc, forcément, ça a été extrêmement enrichissant, ça a été parfois douloureux, ça a été étonnant de me resituer à chaque fois dans l'âge que j'avais et d'essayer de, voilà, de me détacher du regard actuel qui peut évaluer et qui risque de fausser les choses pour vraiment me remettre, voilà, à ce moment-là, dans quel état d'esprit j'étais. Bah oui, il y avait de la naïveté, par exemple, beaucoup et beaucoup d'innocence, en fait. Mais c'est ça qui est beau, quelque part. C'est de se voir grandir au fur et à mesure. Donc voilà, il y a forcément un cheminement introspectif personnel. Et puis après, il a fallu quand même rendre ça digeste, parce que tout n'est pas forcément intéressant non plus à partager avec les lecteurs.
Et donc, comment est-ce que tu as fait pour réduire les 650 pages? Tu as tout envoyé à l'éditeur et tu lui as demandé qu'est-ce que je fais? Comment ça s'est passé?
Et j'ai été super bien
Ok.
accompagnée, vraiment. C'est là que je me rends compte que autant l'auto-édition c'est génial, mais quand même, alors c'est vrai que l'éditeur se prend une sacrée marge, mais honnêtement, je trouve que là c'était justifié parce qu'ils m'ont vraiment, j'ai beaucoup appris à leur côté. J'ai une super jeune éditrice pour m'accompagner dans ce reformatage de mon texte. On s'est parfois pris la tête, mais elle l'a toujours fait avec intelligence. Il y avait toujours un argument. Et forcément, c'est douloureux hein, de se couper de certaines parties de son histoire parce qu'il y a un côté parfois un peu castrateur. On a l'impression de renoncer à certaines choses. Mais non, mais ça m'a permis justement de comprendre qu'écrire un livre, c'est pas l'écrire pour soi, c'est l'écrire pour qu'il soit lu. En l'occurrence, et que bah, il ne s'agit pas de faire un compte-rendu de tout ce qu'on a vécu, mais de partager une bonne histoire et surtout une histoire qui va toucher. Donc voilà, il a fallu taillader énormément les phrases. Moi, j'adore les descriptions, je paraphrase beaucoup, et là, il a fallu réduire, réduire, réduire. Parfois, ça l'est trop, je trouve, parce qu'au niveau du style, c'est parfois un petit peu. Enfin,
Un peu
c'est.
saccadé peut-être ou
Pour moi, un peu
rapide.
trop expédié.
Ouais.
Ouais, un peu saccadé. Ouais. Mais je me rattraperai dans un
Dans
autre
la
bouquin.
suite.
Et voilà. Et donc, bah, c'est beaucoup de. Ça a été le plus difficile dans l'écriture. Enfin, les plus difficiles, ça a été le lancement. Parce que je me suis retrouvée quand même longtemps démunie devant ma page blanche. Il y a beaucoup de textes d'archives que j'avais accumulés durant des années dans lesquels j'ai pioché. J'avais mon journal intime de gamine et adolescente jusqu'à mes débuts dans le porno qui m'a servi aussi de matière où j'ai puisé dedans et ça m'a permis aussi de me reconnecter à l'état d'esprit que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc ça a été, ça a été laborieux. Mais c'est vraiment une étape dans ma
Ouais.
vie.
Est-ce que tu te souviens combien de temps ça a pris, numéro 1, d'écrire le manuscrit de 650 pages, et numéro 2, de faire tout le processus d'editing qui s'est passé derrière?
Oh la vache. Je crois que l'editing a été presque aussi
Ouais,
long.
je pense, hein.
Non, quand même, peut-être moins.
C'est.
Mais franchement, c'est... C'est vraiment deux travaux différents et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Hein. Parce que le premier, il est plus dans le côté « allez, je lâche, je me censure pas justement et j'écris tout ce que j'ai envie de partager ». Et le deuxième, c'est « ok, comment raconter une histoire avec toute cette matière, la restructurer ». Donc, ça a été… j'ai plus le nombre de mois en tête, mais… ça a été presque équivalent, je crois.
Donc, c'est l'affaire de quoi? 6 mois pour chaque partie, pour l'écriture, 6 mois d'éditing.
Ouais, peut-être 4 mois d'éditing, du coup. Pas moins, en tout cas, je pense. Ouais, il y a des choses que je ne voulais pas lâcher non plus. Je leur ai dit, je vous préviens, il est impensable qu'on supprime les épisodes sur mon chat. vous pouvez retirer des ex, mais pas mon chat. Et du coup, j'en parle pas autant que je voudrais, mais il est quand même présent dans le livre.
Et pourquoi
j'ai fait quand
pourquoi
même
ton chat, du coup, c'est quoi le
Mais parce que c'est une personne importante dans ma vie. Non, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est le côté affectif, forcément. Et puis, c'est pas anodin non plus, parce que mon chat, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup compté dans mon adolescence. Et moi, dans mon enfance et mon adolescence, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, introverti. Je ne connaissais pas mon corps, et encore moins le corps des autres. Moi, j'ai pas vécu une adolescence de flirt, pas du tout, quoi. Et donc, finalement, le seul être vivant avec lequel je partageais de la douceur, de la tendresse et un côté tactile, c'était mon chat. Donc, bien sûr qu'il est important, parce que ce récit, c'est un récit autour de l'exploration de mon corps, comment j'apprends à le découvrir. Et mon chat fait partie de mon initiation à la douceur. Et aujourd'hui, c'est l'un de mes nouveaux rêves d'avoir à nouveau un chat. Voilà.
Et pourquoi c'est juste un rêve et pourquoi est-ce que tu n'as pas de chat actuellement?
Parce qu'un chat, ça se mérite. Et là, je n'ai pas une vie suffisamment stable pour avoir un chat. Ouais, c'est une responsabilité quand même.
Tu continues à voyager beaucoup?
En l'occurrence, c'était censé être le cas. Et puis, en fait, la vie me balance des surprises et des cadeaux qui font que je me retrouve à repartir sur les routes. Donc oui, factuellement oui. Pourtant, c'était mon intention de me calmer, de me poser un peu plus. Mais là, par exemple, il y a de fortes chances que je parte plusieurs mois à l'étranger pour bosser, par exemple.
Et ça, tu veux en parler ou c'est pas quelque chose dont tu veux parler? Ce que tu ferais à l'étranger, c'est des projets professionnels qui sont intéressants ou tu me dis?
Je peux pas donner de détails. C'est pour du tournage ciné, en fait. Voilà. Et c'est assez drôle parce que c'est une partie de ma carrière que j'ai mis de côté il y a des années pour développer mon activité de coaching, de conseil. À côté, d'ailleurs, parallèlement, je bosse aussi dans la BD en écriture et en directrice de collection. Mon ambition de faire du cinéma que j'ai eu après avoir arrêté l'UX, hein, ça a été la transition. J'ai fini par la lâcher parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un milieu qui me saoulait. Faire des castings, c'est pas mon truc. Être dans l'attente en permanence, c'est insupportable. Il y a eu beaucoup de projets super, mais qui ont été avortés. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je crois que c'est pas pour moi. Je vais me tourner vers autre chose. Enfin, bref, il y a eu l'écriture du livre. Il y a eu d'autres choses qui ont fait que j'ai senti que ma voix était ailleurs. Et là, forcément, c'est drôle, c'est au moment où je m'y attends le moins et où j'ai le moins d'attentes qu'on me fait une super proposition. Et la vie est comme ça, quoi.
Donc, t'es reparti sur une opportunité.
Donc, je le prends comme un cadeau. Oui, alors je le prends comme un cadeau et j'ai forcément pesé le pour et le contre pour pas que ça nuise à mes activités actuelles. Parce qu'en l'occurrence, je m'apprête à devenir aussi formatrice en hypnose. Donc, ça, c'est quand même... un gros projet qui est important pour moi. Donc voilà, j'accepte ce cadeau de tournage, mais sans nuire, sans que ça m'écarte de mes autres projets. Parce que mon vrai boulot aujourd'hui, c'est quand même l'accompagnement, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pas le cinéma.
À ce sujet-là, aujourd'hui, évidemment, t'es très connu. Est-ce que c'est facile pour toi de trouver des clients? Est-ce que tu passes quand même beaucoup de temps à réfléchir à tes questions de comment est-ce que j'attire les gens sur mon site, dans mon cabinet? Comment ça se passe au niveau marketing pour toi?
Ça se fait vraiment de manière naturelle. Déjà, avant de, d'ouvrir mon cabinet, j'avais déjà des demandes et c'est justement ces demandes qui m'ont poussée à me professionnaliser parce que je donnais des conseils gratuitement et ça devenait chronophage. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien gentil, mais il faut au bout d'un moment que je bosse et puis je ne peux pas comme ça prendre du temps à répondre et à m'éparpiller. Donc au départ, il y avait déjà une demande, en fait, due à ma notoriété en tant qu'ancienne actrice X. Mais à partir du moment où j'ai cadré ça, ça a attiré encore plus de demandes parce que ça, forcément, ça pose un cadre et c'est rassurant. Alors que je pensais honnêtement que ça allait dissuader les gens. À partir du moment où ça allait être payant, je me suis dit, bon, bah, ils vont laisser tomber. Puis en fait, ça a été l'inverse. Et puis, au départ, je communiquais sur un blog qui s'appelle mavidenija.com. Voilà, c'était un blog où je mélangeais un peu toute mon actu. Où voilà, j'ai commencé à communiquer là-dessus. Je communique pas mal sur les réseaux sociaux. C'est génial parce qu'il y a une interactivité avec les gens. Il y a un côté très spontané, très naturel. Et ça, c'est probablement la meilleure manière, en fait, de créer un lien de confiance. Et puis surtout, j'ai beaucoup de plaisir à partager mon évolution. Quand je fais une nouvelle formation, que j'ai une nouvelle certification, je le partage avec les gens. Donc, ils me voient grandir, en fait. Ils me voient évoluer. Et du coup, bah, ça crée une super relation qui fait que, bah, après, ils viennent me voir, quoi. Donc, au-delà de l'aspect sulfureux de l'ancienne carrière, aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. Bien sûr, il y aura toujours une forme de curiosité, il y aura toujours des anciens fans, mais déjà, être un ancien fan de mon ancienne carrière, en soi, bah, il n'y a pas de problème, parce que quand on se rencontre, il y a un côté très décontracté et à la fois professionnel, donc ça ne part pas vers autre chose. Et puis voilà, ça fait quand même plusieurs années maintenant que j'ai arrêté, que je communique sous mon vrai nom. Et ça aussi, ça marque une différence. Donc les gens aujourd'hui, bah, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes, il y a aussi des couples, il y a aussi des personnes âgées, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des personnes du secteur médical qui me sollicitent aussi. Donc en fait, c'est très très large aujourd'hui. Et ça se fait naturellement. Il y a aussi le fait que je ne cherche pas à travailler tous les jours du matin au soir. C'est pas du tout mon ambition. Moi, je me restais libre de mon emploi du temps, avoir du temps pour moi, pour le sport, pour l'écriture, pour les autres projets. Donc voilà, j'ai un équilibre qui s'est mis en place spontanément et vive les réseaux sociaux. Hein. Franchement, ça a été assez super. Ouais. Quoi. C'est vraiment ce qui m'a permis de communiquer sur la transition.
Et tu étais déjà présent avant la transition, parce que même en 2013, il y avait déjà Facebook, etc. C'était déjà quelque chose que tu faisais beaucoup sur les réseaux, ou est-ce que c'est un truc dont tu n'avais pas besoin à l'époque, qui n'était pas vraiment pertinent?
J'étais pas trop, je postais par principe, okay. Et puis c'était pas très intéressant parce que par rapport à mon ancienne carrière, honnêtement, c'était très narcissique, enfin c'était du sexy. Alors évidemment, les gens sont toujours très contents de se rincer l'œil, mais dans l'absolu, ça n'a rien de particulier. Et puis honnêtement, des jolies filles, il y en a plein, il y aura toujours plus jolies, toujours plus jeunes. C'était pas du tout la même démarche, quoi. C'était beaucoup plus une vitrine, alors que là, c'est beaucoup plus un espace de partage. Moi, j'adore poster un truc et de lire les commentaires et d'échanger. On parle de cinéma, on parle de musique. J'ai une super communauté, hein, que je rencontre en plus dans des lives sur Twitch, sur une chaîne que j'ai ouverte récemment qui s'appelle Bien-être et Baston, que j'ai lancé lors du premier confinement. Et je suis moi-même étonnée de la bienveillance des gens, de leur, voilà, de leur curiosité. Enfin, je leur laisse bien souvent le choix des sujets qu'on va aborder. Bien sûr qu'on parle souvent de sexualité, mais ce n'est pas grave-le. Et je leur laisse le choix et on se retrouve à parler de trucs. Enfin, voilà, j'ai fait un live sur l'autisme en me disant, bon, on va être trois. Et ça a été l'une des émissions les plus regardées. Et je lui dis, mais c'est génial, en fait. Ça vaut le coup, en fait, je pense, de défendre les choses qui nous tiennent à cœur, parce qu'on attire après à soi des personnes qui sont dans cette même mentalité, dans cette même énergie. Et peut-être, enfin, c'est même évident que je ramène moins de monde que celle qui va prendre son bain sur Twitch. Mais c'est tellement pas la même intention. Moi, je préfère avoir moins de monde, mais qu'il y ait un vrai partage. Et du coup, il y a une fidélisation et on s'enrichit mutuellement, quoi.
Et du coup, ça pose toujours la question de comment tu te positionnes par rapport à ton ancienne carrière, parce qu'il y a, y a cette idée où, d'un certain point de vue, tu vois, moi, je le regarde toujours d'un point de vue marketing, je me dis, si tu as fait un truc que tout le monde connaît, il faut que tu en parles tout le temps, parce que tu vois, tout le monde connaît et c'est un point de marketing clé. Et il y a l'autre point
Ouais.
de se dire, bah, en fait, non, parce que sinon, on va toujours me ramener à ce que j'ai fait avant et je pourrais jamais développer quelque chose de nouveau. Comment est-ce que toi, tu réfléchis à cette équipe? Parce que tu vois, j'ai vu pas mal d'interviews que tu as faites et évidemment, le titre, ça va toujours être quelque chose qui va être lié au porno par rapport à ce que tu as fait avant. Tu vois, c'est ça qui va être le point clé. Et si tu sais en jouer, j'ai vu que tu avais une vidéo sur le Huffington Post qui avait plus de 4 millions de vues. Tu vois,
Ah,
c'est
je savais
évidemment
pas que
si
ça
tu
avait
sais
fait
en
4
jouer comme
millions.
étant le. Ouais, cette vidéo de 5 minutes sur le Huffington Post que tu as fait à 4 millions de vues, ce qui est colossal. Enfin, au niveau de, notamment une vidéo en français, ça commence à faire une grosse portion de la population. Donc, comment est-ce que tu réfléchis ça? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, tu vois, je vais donner un exemple. J'avais un YouTuber qui s'appelle Micode sur mon podcast et je lui ai posé la même question que je t'ai posée avant qu'on enregistre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des trucs dont t'as pas envie qu'on parle? Et en fait, lui, il a eu cette expérience où sa première vidéo sur YouTube a explosé. Ce qui n'arrive jamais, en fait. Personne poste sa première vidéo et ça explose, mais lui, ça lui est arrivé. Et il m'a dit, s'il te plaît, me parle pas ma première vidéo, parce que ça me saoule, j'en parle à chaque fois. Et je me demande, dans ton cas, bah, comment est-ce que tu fais pour te dire, c'est une partie, mais en même temps, j'ai pas envie de parler que de ça. C'est important que j'en parle parce que c'est aussi ce qui va attirer les gens et ce qui va développer mon activité. Mais d'un autre côté, il faut que je fasse la part des choses pour que les gens ne restent pas bloqués dessus. Comment est-ce que tu réfléchis à cette question-là?
En fait, pour moi, le seul critère, c'est qu'il y ait du sens. Je n'ai pas de problème à parler de mon passé, et je le fais spontanément d'ailleurs, et dans mon boulot, parfois dans mes séances, dans mes émissions de Twitch, surtout pour les nouveaux venus, hein, parce que les personnes qui débarquent vont me poser des questions très bateaux, et je ne vais pas pour autant m'énerver, je vais leur expliquer, parce que c'est comme ça qu'on communique. Et par rapport aux médias, je suis très patiente, parce que je sais qu'il faut répéter beaucoup de fois aux gens pour que ça s'imprègne et aussi parce que tout le monde n'est pas censé connaître mon évolution, tout le monde ne me suit pas sur les réseaux sociaux et comme sur Internet l'image reste visible comme ça, il y en a même si ça fait plusieurs années, ils sont pas au courant, ils sont pas au courant. Donc pour moi, d'accepter que l'ancienne carrière, l'ancien pseudo soit mentionné, c'est aussi une manière justement de parler de l'après pour parler de l'avant, en fait. En revanche, je refuse les interviews qui veulent se concentrer que sur le passé, que sur le porno, parce que là, au bout d'un moment, j'écris un bouquin, je dis, lisez mon bouquin, parce qu'en fait, il a été écrit pour ça. Ça sera jamais mieux expliqué que dans le bouquin. Et puis surtout, au bout d'un moment, ça ne fait pas avancer les choses. Parler de sexualité, oui. Parler de sexualité en lien avec le porno, oui. Mais parler de mon ancienne carrière et de l'industrie du porno, ça ne m'intéresse pas. S'il y a un lien avec aujourd'hui et que c'est constructif, oui, volontiers en fait, parce que c'est une expérience qui, bien sûr, qui a été utile. Mais honnêtement, c'est pas tant le côté ouais, faut que je récupère un max de personnes par rapport à mon ancien nom. C'est une question que je me suis posée au début, mais finalement, j'ai fait le choix en abandonnant mon pseudo, hein. Je me suis moi-même coupée de ça. J'ai perdu des contrats. J'avais des propositions professionnelles et c'était non, nous on signe avec toi, mais il faut que tu te présentes toujours sous le nom Katsuni. Je dis non, en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que c'est plus moi, parce que pour moi c'est plus pertinent, ça sonne faux. Donc voilà, à partir du moment où j'ai repris mon nom, c'était une manière pour moi de me concentrer sur le présent, quoi. Donc j'ai pas de problème à évoquer le passé, mais il faut que cette évocation soit utile.
Ouais.
Sinon c'est
Ouais,
du
tu veux
pur
toujours qu'il y ait un
voyeurisme.
pont entre les deux.
Ouais, et puis sinon c'est mais moi-même hein, sur les réseaux sociaux, je fais des flashbacks. Il y a des moments où je vais faire des retours en arrière. Mais l'intérêt, c'est de créer des correspondances, c'est de créer des liens. C'est pas de rester bloqué dans une forme de nostalgie, quoi.
Ouais, je vois. Et du coup, quand tu repenses à ce nom de Katsuni, tu l'as dit, c'était un pseudo. Est-ce que pour toi, c'était aussi une forme de personnage, ou est-ce que tu le vois comme étant une période de ta vie où tu étais vraiment cette personne pendant une période, ou est-ce que c'était, tu vois, une espèce de rôle Comment tu sais tout quoi? C'est quoi ton recul par rapport à ce nom-là, puisque tu veux plus aujourd'hui l'utiliser?
En fait, c'est multiple. C'était un rôle qui en jouait plusieurs. Parce qu'il y avait l'actrice porno, l'actrice, voilà, le personnage médiatique qui s'appelait Katsuni, et qui elle-même jouait des rôles dans les vidéos. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à prendre du recul par rapport à ça, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que ça brouille les
Parce qu'il y a
pistes.
deux couches en fait d'actrices.
Il y a deux
Il y a
couches.
le personnage que tu joues de Katsuni et le personnage dans la vidéo, c'est ça?
Mais bien sûr. Et si dans la vidéo on me demande d'être dominatrice, je vais être dominatrice. Si on me demande d'être une parfaite greluche, je vais être une parfaite greluche. Et moi, ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Mais les gens vont faire des raccourcis. Si elle est nympho dans la vidéo, c'est qu'elle est forcément dans la vraie vie. Non, pas forcément. En fait, c'est ce qui s'appelle être acteur. C'est qu'on. Alors après, je suis d'accord. Hein, c'est très caricatural et très limité, mais ça reste quand même un jeu d'acteur. Et puis après, il y a le personnage médiatique. Et ça aussi, c'est un rôle. Parce que forcément, quand on se présente en tant qu'actrice porno, qu'en plus, y a un pseudo, les gens attendent de nous qu'on soit actrice porno. Mais rien ne nous y oblige. Hein. Il y a des. En fait, dans l'absolu, on n'est jamais obligé de jouer les minettes. Mais c'est quand même ce qui est attendu, parce que c'est un personnage dont la vocation est de susciter du fantasme. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs quand j'ai rematé ma vidéo de présentation de ma chaîne YouTube, Ma vie ninja, que j'ai ouverte, je crois, en 2013 à peu près, donc juste après avoir arrêté le porno. Il y a quelques mois hein, seulement, alors je ne suis pas très active sur YouTube, je poste de temps en temps, je mets des replays de mes émissions Twitch. Donc il y a quand même du développement personnel, des conseils, du sport. Et donc, je me dis, ah, mais tiens, au fait, c'est vrai, j'avais fait une vidéo, et là, je la regarde, et je suis horrifiée. horrifiée, mais je me suis marrée. Parce que j'étais encore dans Katsuni, quoi. Donc, ça veut dire que ma voix est deux fois plus aiguë, et plutôt que de parler normalement, c'est salut, bienvenue sur ma vie ninja. Ouais, je suis trop contente que tu t'abonnes. Et je me regarde, je me dis, mais pourquoi je parle comme ça? C'est quoi mon problème? Mais c'est parce que je suis encore dans ce personnage qui est, qui va forcément jouer un peu, qui va minauder. Ouais, ça avait du sens en tant qu'actrice porno, mais là, oh là là, ça fait du bien de se débarrasser de ça et de se dire, mais j'ai pas besoin de ça, en fait. Mais c'était cool à faire le temps que ça a duré. Hein, et aujourd'hui, quand j'en vois qui sont dans ce personnage, ça me fait sourire. Parce que je dis, bah oui, elles sont à fond là-dedans. Le risque, on va dire, c'est d'en faire quelque chose d'identitaire. Et c'est ce qui est arrivé au bout d'un moment aussi dans ma vie, de me confondre au personnage et de penser que je n'étais plus que ça. Et ben c'est hyper enfermant, parce qu'après, en fait, on ne se sent pas capable de faire autre chose. Donc il a fallu à un moment donné que je revienne à moi et que je réalise que, non, en fait, personne ne me forçait à être dans la séduction, à jouer justement sur la séduction pour réussir. Pas du tout. C'est en fait la réussite, c'est aussi des compétences, c'est aussi du travail, quoi.
Et aujourd'hui, tu opères sous ton propre nom. Est-ce que tu as toujours la sensation de jouer en certaine mesure un personnage quand tu opères sous ton propre nom?
Non, je suis vraiment moi en fait. Je suis vraiment moi, mais mon moi reste multiple. C'est-à-dire que je vais pas forcément m'exprimer de la même manière devant. Enfin, quoi que. Non, enfin. Bien sûr, on s'adapte. Non, je me sens vraiment. Alors, pour le coup, je me sens vraiment bien, parce que je me sens obligée de rien. Et ça fait un bien fou, en fait. Et parfois, je peux m'amuser. Parfois, je me dis, ouais, là, j'ai envie d'être un peu plus dans une forme de séduction, mais c'est pas dans une attente de quoi que ce soit, c'est juste pour le plaisir d'exploiter cette partie qui fait toujours partie de moi, en fait.
Parce que là, moi, je suis très présent sur YouTube, donc du coup, j'ai sous mon propre nom. Enfin, j'ai le nom de la marque, Marc Timonet, etc. Mais mon nom apparaît directement dans les vidéos. Et j'ai toujours eu l'impression de jouer un espèce de personnage, même toi, sous mon propre nom, qui est en fait quelqu'un qui est ultra focus sur le marketing, le business, tac, 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 tac. Ce qui est en partie ce que je fais, si
Ouais.
tu veux. Mais ta personnalité est plus riche que ça derrière. Mais souvent, ce que j'explique aux gens, c'est qu'en matière de personal branding, en fait, quand tu as une marque, bah, il faut accepter que les gens vont voir qu'un aspect de ta personnalité et que tu veux un petit peu l'accentuer et le distiller. Moi, la manière dont je le vois, c'est dans mes vidéos, en fait, les personnes me voient débiter un truc de 20 minutes, un script, et les gens se disent « Oula, ce gars, il est perçu en marketing ». Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai passé 10 heures à condenser mes pensées dans quelque chose, et ensuite, on a passé des heures à le monter pour avoir en fait une espèce de version condensée, densifiée, distillée des idées que j'avais en fait en marketing. Et du coup, j'ai l'air beaucoup plus vif, je parle beaucoup plus vite, j'ai beaucoup plus d'idées, d'exemples, de trucs qui me sortent comme ça, parce qu'en fait, ouais, tout est scripté.
C'est le montage, ça.
C'est le montage, mais c'est aussi le scripting. D'ailleurs, moi, je passe beaucoup de temps à écrire les scripts sur mes vidéos. Et du coup, je me dis, en fait, il y a une espèce d'image que les gens voient, qui n'est pas vraiment qui je suis, et les gens n'ont pas vraiment une vision tridimensionnelle de moi. Et donc, du coup, les gens qui débarquent sur ma chaîne YouTube, ils disent, voilà, Stan, c'est un mec qui pense qu'à l'argent, il pense qu'il n'y a que le business, et qu'il faut manipuler les gens, etc. Parce qu'effectivement, c'est de ça, en fait, dont je leur parle. Je ne leur parle pas souvent de, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai été faire une marche avec ma fille, tu vois. Mais du coup, en un sens, je me dis, moi, j'aime bien parce que ça me donne une espèce de distance. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage, les gens, ils vont aimer ou pas le personnage, mais en fait, c'est pas moi. C'est-à-dire que si les gens pensent que marketing mania, c'est le truc le plus génial, c'est super, bah en fait, parce que tu te rends pas compte de tout le boulot que j'ai mis dans cette vidéo, et si tu savais tout le boulot que j'ai mis, tu me mettrais pas sur un piédestal. Et inversement, les gens disent, ah là là, c'est qu'un sale capitaliste qui pense qu'à l'argent. Je dis, bah en fait, pas vraiment. C'est juste qu'il s'avère que le sujet dont je te parle sur cette chaîne, c'est ça, et que si sur la chaîne, je te parlais de n'importe quoi, ça serait pas intéressant si je te parlais de n'importe quel sujet sur lequel je suis pas expert. Moi, ça me donne une distance, tu vois, par rapport à la fois, ouais, aux gens qui vont t'aduler un petit peu trop et par rapport aux gens qui vont te critiquer parce qu'en fait, ils savent pas, ils ne voient qu'une espèce de, un truc deux dimensionnel, tu vois. Et que moi, je suis assez content finalement d'avoir ça et de me dire, voilà, bah, c'est le personnage public qui est toujours différent un petit peu de qui t'es derrière. Même si tu injectes beaucoup de ta personnalité dedans, ça reste, il y a quand même une distance.
Oui, bah, je pense que c'est la toute personne qui est, enfin, on est tous confrontés à ça en fait, aux étiquettes et aux jugements et beaucoup de gens, alors beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que il y a cette confusion entre ce que la personne montre et ce qu'elle est, et parce que tu montres ça et que tu es spécialisé dans un domaine, on va te réduire à ça de la même manière que moi, quand j'ai commencé sur Twitter, je me souviens à parler de mes goûts en cinéma, mais juste en disant, bah tiens, j'aime bien ce film, mais je me suis fait, je me suis fait recadrer, quoi. C'est, mais t'es qui pour parler de cinéma? Attends, retourne faire tes films porno, t'es bonne qu'à ça, quoi. Avec beaucoup de mépris en plus. Et parfois, certains vont le dire avec douceur, en disant, non, mais t'es gentil, mais tu sais quoi, nous, on t'aime que dans le porno, en fait, tu peux pas faire autre chose. Mais on t'adore, tu vois. Mais c'est horrible, en fait. C'est ce côté hyper enfermant où, parce que les gens t'aiment, ou t'aiment pas d'ailleurs, dans une fonction, parce qu'ils t'ont vu dans une chose, tu ne devrais faire que ça. Tu n'as pas le droit d'évoluer. Parce qu'au même moment où certains, je suis sûre, te font des reproches, si demain tu proposes des vidéos complètement différentes, ils vont te le reprocher. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ou limite, tu vas te teindre les cheveux en blond, ils vont dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit. Tu leur appartiens. Ton image, tout ce que tu fais leur appartient. En tout cas, c'est la sensation qu'ils ont. Et le danger, c'est de finir par croire qu'effectivement, on leur appartient. Et moi, ce qui me plaît justement, et les réseaux sociaux là-dessus sont aussi une opportunité, c'est de montrer que non, en fait, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Maintenant, c'est vrai que dans une démarche professionnelle, il faut quand même être clair dans sa démarche. C'est-à-dire que l'attitude peut-être sexy que je peux avoir, enfin sexy. Sensuel que je pourrais avoir dans certaines poses, quand je fais de la contorsion, que je poste sur Instagram, bah, cet esprit-là, je ne vais pas l'avoir en séance où je reçois quelqu'un qui me parle de ses abus sexuels. Ça ne serait pas du tout cohérent et ça serait complètement déplacé. Donc, il y a un temps pour tout, en fait. Je crois que ça, c'est important, qu'il y a un temps pour tout et en fonction des activités qu'on fait, effectivement, on ne va pas exprimer et exploiter la même facette. Mais on a le droit quand même d'avoir tout ça. Et si certaines personnes aujourd'hui me consultent, c'est parce qu'en fait, elles se sont enfermées toutes seules. Et ça a ses limites, hein, de toute manière.
Je voudrais revenir sur un autre élément. Non, c'est très bien. C'est très bien. Je voulais revenir sur un autre élément de marketing. Moi, je suis toujours intéressé. J'essaie toujours de comprendre, bah, tiens, pourquoi est-ce que ça marche, ce qu'ils font, comment tu as les meilleurs youtubeurs, pourquoi est-ce que c'est les meilleurs youtubeurs, etc. Toi, quand tu as arrêté le porno, tu étais vraiment au sommet de l'industrie. Qu'est-ce qui a fait que tu avais autant de succès et que tu es allé aussi loin, en fait, dans ce milieu-là?
Bah ça reste toujours une énigme. Honnêtement, j'ai toujours été bluffée, moi, de mon succès, parce que franchement, j'ai croisé des filles d'une beauté exceptionnelle, mais la beauté ne fait pas tout. Ce qu'on demande à une actrice porno, c'est pas d'être Miss Univers, c'est d'être excitante, parce que c'est la fonction d'un film porno. Moi, je pense qu'il y a un truc quand même, il y a deux éléments qui ont vraiment joué. C'est d'une part, j'ai toujours considéré ça comme un métier, donc j'ai toujours eu un comportement très pro. C'est con, hein, mais la base, arriver à l'heure, ne pas être drogué, être respectueux, s'adapter, proposer, enfin, être impliqué dans ce qu'on fait. Enfin, voilà, c'est valable pour n'importe quel métier. Bon, et c'est un peu un métier. Bon, il y a des personnes qui sont pas forcément investies en fait, ou qui sont un peu larguées. Et ça peut être triste d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été assez studieuse. Et puis à côté de ça, bah, la notion de plaisir, c'est-à-dire que j'ai aussi choisi ce métier pour y trouver du plaisir et pour le partager au maximum. Donc, il me semble que c'est le critère essentiel en fait pour être bon dans le porno. Hein. Si on n'aime pas le cul, si on n'aime pas les hommes, si on n'aime pas les femmes, c'est chaud. Et il y en a. Hein. J'en connais des performeurs, des performeuses qui sont très bons pour faire le show, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Et je pense qu'au bout d'un moment, le spectateur, il le perçoit ça. Il y a un truc qui est impalpable. Et d'ailleurs, les actrices porno qui vendent le plus aujourd'hui ne sont pas les plus belles. C'est parce que il y a quand même une sorte de rage, il y a une énergie en fait qui transparaît et qui fait que ces personnes, elles embarquent leur public. Et c'est en soi, c'est une forme d'hypnose d'ailleurs. C'est la capacité à mettre sous hypnose son public et à créer une relation, en tout cas un lien de fantasme. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que j'avais vraiment un grand appétit, c'est-à-dire que j'ai bossé en France, en Europe, chez les États-Unis. Il y avait une vraie curiosité de ma part, quoi. Et puis apprendre aussi à dire non, apprendre à bosser probablement avec les bonnes personnes aussi. Je pense que c'est un tout. Mais je me suis jamais comparée aux autres, en fait.
Donc, du coup, tu n'as pas démarré avec cette ambition particulière de dire, moi, je veux travailler avec telle ou telle personne, je vais avoir tel ou tel niveau, c'est plus quelque chose qui est arrivé.
Non, en fait, moi, bon, je me souviens, ma première envie à mes débuts, c'était surtout, je veux, je voyais un peu le monde comme un gros buffet de dessert, et je me disais, je vais pouvoir faire l'amour avec tous les mecs de, enfin, pas tous les mecs de la planète, mais en tout cas, j'ai envie de découvrir les manières de toucher, les manières d'embrasser différentes d'un pays à un autre. Il y avait vraiment cette curiosité sexuelle, en fait. C'était vraiment sexuel. Et puis, comme j'étais quand même au courant de l'industrie du porno, j'avais quand même un respect pour certaines prods, certains réals. Et y en a qui s'en foutent, en fait. On leur présente une prod ou une autre, c'est pareil. Moi, je reconnais que quand je suis allée aux États-Unis, j'ai halluciné, que je me suis retrouvée à bosser avec des grands noms. Je me sentais super privilégiée, quoi. Donc, je me suis jamais dit je vais être la numéro un. Par contre, je me suis toujours dit chaque scène est unique et je vais donner le meilleur en fait. Et je pense que le secret il est là en fait, c'est d'être présent à fond dans ce qu'on fait sur le moment. Et même si c'est une petite scène et même si c'est un truc dont on se dit que ça va pas être vu beaucoup, franchement, il n'y a pas de différence. C'est je donne tout quoi. Et moi, mon plaisir il était là-dedans aussi, hein. En fait, je partais en transe pendant mes scènes. Hyper libérateur, hein. Pas besoin de LSD.
Pas besoin de LSD, effectivement.
Pas besoin de drogue. Moi, j'ai jamais eu besoin de drogue, en fait.
Du coup, t'es finalement rentré dedans pas mal à l'instinct. J'ai l'impression que même ta reconversion plus tard, la manière dont tu le présentes dans ton TEDx, par exemple, c'est que tu t'as switché un peu sans plan, finalement, de ce que tu allais faire exactement après, et tu l'as découvert un peu sur le terrain. J'ai vu qu'une des premières choses que tu avais faites après avoir arrêté le porno, c'était de t'inscrire dans une école de cirque.
Bah oui, forcément, c'est drôle. Bah oui, parce que alors moi j'adore le cirque, je trouve que c'est un univers magnifique avec des gens incroyables qui ont un mérite de fou parce que c'est un milieu qui est très dur et en même temps il y a cette image péjorative du cirque quand on dit « ouais, le porno, c'est du cirque », par exemple. Au sens, c'est de la perf, pour de la perf, c'est grotesque. Donc, ça peut prêter à sourire parce qu'il y a des correspondances entre porno et cirque, quelque part. Mais j'avais besoin d'utiliser mon corps, en fait. Je me suis retrouvée démunie, j'ai arrêté de manière assez... instinctive, parce que moi, quand je prends une décision, c'est vraiment, il y a le mental, mais vraiment, quand je le sens, il n'y a pas moyen, quoi. D'ailleurs, mes pauvres ex en ont fait les frais. Quand c'est fini, c'est fini. Et en même temps, quand je suis prête, alors là, c'est radical, quoi. Et donc, j'ai arrêté le porno vraiment sans réfléchir à la question financière. Bon, j'avais quand même, j'étais pas à la rue non plus. Mais j'ai refusé des contrats. Il n'y avait même pas de négociation possible. C'est non, j'arrête, c'est clair. Et j'ai une amie qui était aussi ancienne actrice porno, qui a arrêté un petit peu avant moi, qui a été pour moi la numéro 1 au monde, qui s'appelait Belladonna. Une femme extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est la seule amie que je me sois faite, d'ailleurs, dans ce milieu, en tout cas aux États-Unis. Et à ce moment-là, justement, elle était en train d'explorer le cirque, et donc je l'ai rejoint, je me suis inscrite dans la même école, et je me suis retrouvée complètement larguée dans cette formation professionnelle où il n'y avait que des petits jeunes super en forme, alors que moi, je n'étais même pas sportive à la base. Donc ça a été une belle leçon d'humilité et une super manière de me retrouver, quoi. Là, il n'y avait plus de bluff. Il y avait pas de... Là, on n'est pas dans l'image, hein. On est dans la perf. On ne peut pas tricher.
Et tu dois du coup refaire ce type de reconversion radicale dans le futur ou tu penses que tu es arrivé finalement sur quelque chose, t'en sais plus, c'est pas en
tout
fait.
Est... J'ai envie de te dire
tout
que...
Tout
ouais, en fait, je sais que là, je me sens à ma place, mais tout comme lorsque j'étais dans le porno, je me sentais à ma place. Là, je sais que je suis exactement là où il faut que je sois être, où il faut que je sois, parce que sinon c'est un peu bizarre comme phrase, parce que ça donne du sens à tout mon parcours et surtout ça me permet de, enfin c'est juste incroyable en fait de participer à des changements dans la vie des gens, c'est super émouvant, enfin pour moi il y a rien de plus beau que ça en fait, mais tout est possible. Tout est possible. La preuve, c'est que là, je me retrouve à partir pour un tournage et je me dis, j'ai l'impression que ma vie est un énorme Kinder surprise et que voilà, il y a quand même des choses qui font que je sais que rien n'est jamais figé et c'est super en fait. Tant mieux.
Du coup, je suis curieuse de savoir. Tu disais que tu avais pris cette décision de manière assez instinctive. Est-ce que t'as une idée de la temporalité? En combien de temps ça t'a pris entre te dire « tiens, il faudrait peut-être que j'arrête » et le jour où tu dis « en fait, je refuse tous les contrats »
Alors, il y a eu quand même, sur plusieurs années quand même, il y a eu une sorte de lassitude qui a commencé à se mettre en place. Je dirais que, en fait, moi, ce qui m'a vraiment cassé, et pourtant, c'était l'apogée de ma carrière, comme quoi, il ne faut pas suivre aux apparences. Mais c'est lié à une question personnelle. C'est-à-dire que vers mes 27-28 ans, et j'ai arrêté à 33, vers 27-28 ans, ça a commencé à vriller. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'erreur d'avoir une relation amoureuse en fait, qui est devenue toxique. Et ça m'a complètement bousillé mon rapport à mon métier. J'ai su à peu près le cacher, mais en fait là ça a été une première rupture. Ensuite, je me suis séparée de cette personne. Il y a eu un autre gros coup, ça a été de vraiment vraiment tomber amoureuse, mais d'un homme qui était hardeur. Et ça a été assez douloureux. Et ça a été une grosse prise de conscience. Donc à partir, en fait, durant toute cette période, quand même, il y a des choses qui m'ont atteinte sur le plan personnel en tant que femme, dans mon rapport à mon corps aussi, parce que au bout d'un moment, en fait, j'avais envie d'une sexualité pour moi. Et puis, donc ça a été latent, ça quand même. Et voilà, de l'observation, de voir le milieu qui change, de voir que les acteurs, les actrices sont plus sur leur portable que avant la scène, à échanger. Enfin, voilà, ça a mis du temps quand même. Ça a mis plusieurs années. Et puis, un jour, je me trouve sur un tournage qui en plus, et c'est ça que je trouve révélateur, qui était idéal, facile, agréable, enfin vraiment, il y avait tout pour que ça se passe bien. Et à ce moment-là, je me dis vraiment, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et là, c'est horrible, parce qu'on a l'impression d'être... ça fait retour vers le futur, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être... Enfin, c'est très bizarre, ce sentiment d'être étranger à quelque chose, de dire, mais non, je ne suis pas censée faire ça. Comme s'il y avait un script qui avait été écrit, tu te dis, mais non, mais là, mais mon rôle, c'est plus ça, en fait. Je me suis paumée, c'est plus ça, mon histoire. Après, la question, c'est, ouais, mais c'est quoi le prochain rôle? Et là, bah, c'est parti pour... ça a été plusieurs années d'exploration pour trouver ma nouvelle place.
Donc finalement, la décision, elle se base sur plein d'éléments qui sont arrivés. Et puis un jour, tu as quand même une réalisation, un ouais. élément qui dit, bah, OK, là, c'est bon.
Ouais.
Tous les pièces du puzzle se mettent en place dans ta tête et tu
ouais,
te dis, c'est
ça,
bon.
Il y
a un déclic, quoi.
Ça a été un processus, ouais, quand même. C'est pas, ça n'a pas été le truc de trop. Tu vois, il n'y a pas eu de drame. Y a pas eu, mais ça a été des prises de conscience progressives.
Et tu avais une anxiété par rapport au fait de lâcher une carrière qui marchait bien pour aller dans l'inconnu ou pas? C'est pas ta personnalité?
C'est marrant, c'est pas l'anxiété, moi, qui me revient. C'est pas de
C'est quoi
l'anxiété,
qui te
c'est
revient?
plus. En fait, je me souviens que je passais mes soirées à regarder le ciel, à regarder les étoiles, et c'était vraiment OK, au milieu de toute cette immensité, qui je suis et quel est mon rôle, quel est mon. Enfin, tu vois, ce sentiment d'être insignifiant, de se dire, bah ouais, c'était cool cette histoire là que je me suis racontée. En plus, ça a plutôt bien fonctionné parce que les autres y ont cru. J'ai carrément réussi à bluffer les gens à monter. Parce que pour moi, c'est une énorme. Comment dire, ça a été du boulot, certes, mais pour moi, ça reste quand même une sorte d'énorme bluff, cette carrière d'actrice porno. Puisqu'à la base, je suis quelqu'un de timide et d'introverti. Donc je me dis, putain, mais ça a été une énorme blague que j'ai quand même bien menée. Et pour le coup, j'en suis assez fière parce que ça me fait marrer. Mais après, tu dis, bah ouais, mais en fait, je suis qui? Tu vois, il y a un vrai côté. C'est pas de l'anxiété, c'est plus se sentir totalement vulnérable. Et de se dire, putain, mais en fait, ouais, je suis qui? Quand on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Et y a un côté assez effrayant parce que du coup, tu es face au vide. Et à ce moment-là, je me dis, mais je laisse quoi derrière moi quand même? Je vais pas juste laisser des photos de cul. Enfin, c'est sympa si ça fait plaisir aux gens, mais enfin, quand même, est-ce que je pourrais pas laisser autre chose d'un peu plus utile, qui a un peu plus de valeur que ça? Et donc, voilà, il y a la vulnérabilité et en même temps une excitation énorme parce que tu te dis, mais putain, mais en fait, je peux faire ce que je veux. Mais je commence par quoi, tu vois? Donc, c'est. C'est assez. Ouais, c'est une excitation, mais c'est waouh, ok, en fait, tu es en chute libre, quoi. Et d'ailleurs, pour fêter ça, j'ai effectivement fait de la chute libre. Avec mon amie, l'actrice porno, on a fait ensemble un parachute. Et à ce moment-là, ça a été ça. C'est ok, je saute dans le vide, mais ce qui est certain, c'est que quand tu sautes, tu ne peux pas le faire à moitié. Tu ne peux pas dire oui, bon, je vais peut-être laisser une jambe dans l'avion, et tu vois, et je vais voir comment ça se passe. C'est tout ou rien, en fait. Tu vois, tu le fais pleinement, et il y a un côté où tu lâches, et tu dis, je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, ça reste mon choix de ne pas savoir, voilà, d'y aller. Et c'est génial, parce que en fait, apprendre à se connaître, pour moi, c'est ça, tu vois. C'est de lâcher toute la construction qu'on a pu se faire, que les autres ont fait de soi, et de se réapproprier ça, de se dire, OK, et maintenant, qu'est-ce que je décide de faire de ma vie, tu vois.
Sur ce, Céline, il y a trois questions qu'on pose à tout le monde pour terminer ces épisodes. Et la
Ouais.
première question, c'est est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans?
Oula, mes 20 ans, oh mon Dieu, mes 20 ans, c'est juste avant de commencer le X et c'était pas la meilleure période de ma vie parce que j'étais étudiante dépressive, à écouter le Requiem de Mozart en boucle
C'est
avec du
rarement le
black
cas,
metal de bon matin.
les 20 ans. C'est rarement la meilleure période des gens. C'est pour ça que je pose la question. C'est souvent là où vous avez peut-être besoin d'un bon conseil.
Je sais pas, hein, y en a qui disent que c'est la meilleure période de la vie parce qu'ils sortaient, mais moi c'était pas le cas. C'est une super question parce que il faut que l'expérience se fasse. Il faut que jeunesse se fasse. Donc, ça ne sert à rien pour moi de donner un conseil qui pourrait être le conseil d'un parent qui veut éviter à la, voilà, à la personne de faire certaines erreurs. Ces erreurs, elles sont utiles. Je dirais, ça serait plutôt un rappel. Je pense qu'à 20 ans, je ne saurais même pas l'accueillir, ça, mais je pense que c'est important de l'entendre. D'ailleurs, mon hypnothérapeute me l'a dit plus tard, et d'ailleurs, je l'ai refusé, cette parole, mais c'est tu peux tout faire. Tu as déjà tout en toi. Tu as déjà tout en toi. Ce qui sous-entend aussi, n'attends pas après les autres pour t'aimer, en fait. Ça, c'est important. Mais bon, je pense qu'honnêtement, à 20 ans, on entend ces paroles, ça paraît un peu abstrait.
Ouais. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Bah, le mien, évidemment.
Ouais. Qui s'appelle
Ne dis pas que tu aimes ça. C'est un instant promo qui est chez Fayard. Non, mais pour les personnes qui s'intéressent à mon parcours, honnêtement, voilà. Sinon, bah, ça dépend en fait dans quelle démarche. Moi, il y a un livre que je recommande aux personnes que je coach, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a accompagnée dans ma reconversion. C'est La pierre et le sabre et La parfaite lumière, qui est le tome 2. C'est mon frère qui m'a conseillé ce livre alors que je m'étais blessée au pied. J'étais retournée le pied sur un film d'arts martiaux. À l'époque, ma vie était orientée vers le cinéma et bam, je me fais cette blessure. Et là, on me dit, tu sais, ça va être chaud pour reprendre le sport. Donc, j'étais pas très bien, on va dire, à ce moment-là. Et il m'a dit, vas-y, lis ce livre. Et c'est un livre que je recommande parce que c'est un chemin initiatique inspiré d'un personnage historique. Et c'est magnifique parce qu'au-delà du fait que c'est une aventure palpitante, il y a toutes les étapes du chemin initiatique du héros, avec ses parties d'errance, de doute, de victoire, de trahison. Donc voilà, c'est un super bouquin. Et sinon, un autre livre que je conseille aux plus avisés, c'est Histoire de l'œil de Bataille, parce que ça a été mon plus gros traumatisme littéraire et j'aime beaucoup partager mes traumatismes. Ouais.
Ok, ça marche. Finalement, dernière question. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit ?
Bien, justement, il y en a une que j'ai citée hier. Enfin, en fait, elles sont très proches l'une de l'autre. Du chaos naissent les étoiles de Charlie Chaplin, et Nietzsche avait dit... c'était quoi ? C'était très similaire... Mais qu'en gros, il fallait que le chaos se fasse en soi pour que naisse une étoile. Tu vois, c'est, enfin, en tout cas, c'était cet esprit-là. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que c'est la phrase même du principe de transformation. Il faudrait que je la retrouve, cette citation. Et sinon, il y a une phrase
J'en ai une de Nietzsche, je pense qu'il doit être celle que tu cherches. Il faut encore avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante.
Voilà. Voilà, ou pour accoucher d'une étoile qui danse. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Et sinon, dans mon parcours, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, ça a toujours quelque chose qui m'a accompagnée. En gros, d'être concentré et d'être pro, mais faut pas non plus se prendre pour. Enfin, faut aussi savoir redescendre parce que on fait rien d'exceptionnel. Et puis. Et puis, on a plusieurs vies dans une vie, qui est la phrase que j'ai mise sur mon blog, d'ailleurs.
Je pense que c'est l'endroit parfait pour terminer cet épisode. Merci, Céline, d'être venue partager avec nous.
Bah, merci à toi. J'espère que je n'ai pas trop parlé, du coup.
Non, c'était un plaisir.
Mais tu as des questions intéressantes, c'est ta faute.
Ah ouais. Et de toute manière, mon podcast, il est dans ce format. Là, t'es pile dans les temps, 1h20, on est parfaitement
super.
Dedans. Merci à toi.
Bah, merci.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez envie de construire un business sur Internet, pour moi, une des manières les plus intéressantes de commencer, c'est de construire une audience, et notamment de construire une audience dans le bon domaine, sur le bon sujet, avec des gens à qui vous allez pouvoir vendre quelque chose plus tard. Le problème, c'est que si vous construisez une audience sur un sujet X ou Y, ça peut être compliqué d'ailleurs de monétiser si vous n'avez pas au moins des centaines de milliers d'abonnés pour monétiser avec la pub. La meilleure manière de monétiser généralement, c'est de vendre directement des produits à des gens. Et ça, il faut y penser dès le départ de la construction de votre audience, en étant stratégique sur le choix de votre positionnement, sur le choix de votre sujet. Sinon, vous pouvez passer des années à créer du contenu et même créer une petite audience sans jamais pouvoir la monétiser. Pour recevoir cette formation gratuite qui s'appelle Construire une audience qui achète, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/audience et vous recevrez cet email totalement gratuit pour vous donner toutes les infos pour démarrer votre aventure là-dessus. Sur ce, je vous retrouve dans le prochain épisode du podcast Marketing Mania qui sera probablement dans quelques mois puisqu'on va faire une petite pause sur le podcast. En tout cas, à bientôt.